Décembre. Le faiseur d'affaires. Mon père veut que chaque jour de congé, je fasse venir à la maison un de mes camarades ou que j'aille chez lui afin de me faire peu à peu des amis. Dimanche, j'irai me promener avec Votini, celui qui est toujours si bien mis. Aujourd'hui, j'ai vu Garoffi, le grand maigre qui a le nez en bec de corbin, dont les petits yeux furettent partout. Il est fils d'un droguiste. Un drôle d'original que ce Garoffi. Il compte toujours l'argent qu'il a en poche, compte sur ses doigts extrêmement vite et fait n'importe quelle multiplication sans avoir besoin de la table de Pythagore. Il met de côté tous ses sous et possède déjà un livret à la caisse d'épargne. Ne dépensant rien, si un centime tombe de sa poche sous le banc, il est capable de le chercher des heures entières. « Il fait comme la pie, » dit Derossi. « Il ramasse tout ce qu'il trouve. » Plumes usées, timbres-poste oblitérés, épingles, boîtes vides, etc. Il y a déjà plus de 2 ans qu'il recueille des timbres-poste. Il en a des centaines de tous les pays dans un grand album qu'il vendra certainement ensuite à un libraire lorsque la collection sera complète. En attendant, le libraire donne à Garoffi des cahiers gratis parce qu'il lui conduit beaucoup d'enfants. À l'école, il fait toujours des affaires. Échange, vente, loterie. Il se repent parfois de ses échanges et redemande alors ce qu'il a donné, achète 2 sous ce qu'il revend 4 et vend de vieux journaux à la marchande de tabac. Toutes les affaires qu'il fait sont inscrites sur un petit carnet, on n'y voit que des chiffres, addition ou soustraction. À l'école, il n'étudie que l'arithmétique et s'il désire obtenir la médaille, ce n'est que parce qu'elle lui octroie l'entrée gratuite à Guignol. Moi, il me plaît et m'amuse, Garoffi. Nous avons joué au marchand avec des poids et des balances. Il sait les prix de toutes choses, connaît les poids et fait des cornets de papier aussi vite qu'un épicier. À peine sorti de l'école, il ouvrira une boutique pour un nouveau commerce inventé par lui. Il a été très content parce que je lui ai donné des timbres-poste étrangers et m'a dit à 1 sou près la valeur de chacun pour les collections. Mon père feignait de lire le journal tout en l'écoutant parler et s'en amusait beaucoup. Garoffi a toujours les poches pleines de ses petites marchandises qu'il recouvre d'une grande enveloppe noire. Il a l'air préoccupé et affairé comme le sont les négociants. Mais ce qu'il a de plus à cœur, c'est sa collection de timbres. C'est son trésor, il en parle toujours comme s'il devait en tirer une fortune. Les camarades le traitent d'avare et d'usurier. Je ne partage pas leur avis, moi. Je l'aime bien parce qu'il m'enseigne beaucoup de choses. Il me fait l'effet d'un homme. Coretti, le fils du marchand de bois, assure qu'il ne donnerait pas ses timbres, même pour sauver la vie de sa mère, et mon père me disait « Attends encore pour le juger. » Du reste, cette passion mercantile ne l'empêche pas d'avoir du cœur. Vanité. Lundi 5. Hier, j'étais allé me promener rue de Rivoli avec Votini et son père. En passant par la rue Dora Grossa, nous vîmes Stardi donnant des coups de pied aux camarades qui avaient le malheur de le gêner. Il était arrêté devant une boutique de libraire, les yeux fixés sur une carte de géographie, car il étudie même dans la rue, et nous rendit à peine notre salut, le petit rustre. Votini était très élégamment vêtu, je dirais même trop élégamment pour un garçon. Il portait des bottines en chevreau piquées de rouge, un vêtement brodé et garni de brandebourgs de soie, un chapeau de feutre blanc et une montre d'or. Il se pavanait, mais sa vanité devait tomber bien mal cette fois. Après avoir couru pendant quelque temps sur la route, laissant bien loin derrière nous M. Votini qui marchait doucement, nous nous arrêtâmes devant un banc de pierre près d'un petit garçon, vêtu modestement, qui paraissait fatigué et se reposait la tête baissée. Un homme, ce devait être son père, allait et venait sous les arbres en lisant un journal. Nous nous assîmes. Votini se mit entre le garçon et moi et chercha à se faire admirer par son voisin. Levant un pied, il me dit « As-tu vu mes bottines d'officier ?» Assurément, il avait dit cela pour faire regarder ses chaussures par le garçonnet. Mais celui-ci n'y prit point garde. Alors il baissa le pied, me montra ses galons de soie et me dit, en guettant en dessous son voisin, que cette passementerie ne lui plaisait pas et qu'il la ferait remplacer par des boutons d'argent. Temps perdu, le jeune garçon ne leva même pas les yeux sur Votini. Celui-ci se mit alors à faire tourner sur son doigt son beau chapeau de feutre blanc. Mais l'enfant, qui semblait le faire exprès, ne daigna pas admirer le chapeau. Votini, agacé, tira sa montre, l'ouvrit, me fit voir les rouages. Notre voisin n'y fit pas attention. « Elle est d'argent doré ?» lui demandai-je. « Non, répondit Votini, elle est en or. »«
Mais elle n'est pas tout en or, dis-je, il y a aussi de l'argent. »
« Non, je t'assure !» Et pour obliger le garçonnet à regarder, il lui mit la montre sous le nez et lui dit « Tenez, regardez, n'est-ce pas qu'elle est toute en or ?»«
Je ne sais pas, » répondit-il sèchement.
« Oh, oh !» s'exclama Votini en colère. « Quelle fierté !» Tandis qu'il disait cela, survint M. Votini qui l'entendit. Il regarda fixement notre petit voisin et dit brusquement à son fils « Tais-toi !» Puis, se penchant à son oreille, il ajouta « Le pauvre enfant est aveugle !» Votini regarda alors le visage de l'enfant, dont les pupilles vitreuses étaient sans expression. Il demeura stupéfait, interdit, les yeux baissés, et murmura « Je regrette, je ne savais pas !» L'aveugle, qui avait tout compris, répondit avec un sourire bon et mélancolique.
« Oh, cela ne fait rien !»«
Eh bien, Votini peut être fat, mais il n'a pas mauvais cœur, car pendant tout le temps de la promenade, il est demeuré tout pensif. » La première neige, samedi 10. Adieu, promenades à Rivoli. Voilà la belle amie des enfants, voilà la neige qui est arrivée. Depuis hier soir, elle tombe serrée en larges flocons, comme les fleurs du jasmin. Ce matin, à l'école, c'était plaisir de la voir s'abattre contre les vitrages et s'amonceler sur les corniches. Le maître, lui aussi, regardait en se frottant les mains et nous étions tous contents en pensant à faire des boules de neige, à la glace qui viendra ensuite et au feu qu'on allumera à la maison. Il n'y avait que Stardi, tout occupé de la leçon, les poings serrés aux tempes, qui n'y faisait pas attention. Quelle belle fête ce fut à la sortie! Tous de dégringoler dans la rue en criant et de brasser la neige et de barboter dedans comme les petits chiens que l'on jette à l'eau. Les parents qui attendaient dehors avaient leurs parapluies blanchis, le garde municipal avait son casque tout blanc et nos gibecières en un rien de temps furent immaculées. Tous les élèves étaient dans le ravissement, jusqu'à Précossi, le fils du serrurier, le petit Palot qui ne rit jamais, et Robetti, celui qui sauva l'enfant de dessous l'omnibus. Il sautait, le pauvre petit, avec ses béquilles. Le Calabrais n'avait jamais vu la neige et s'en fit une pelote qu'il mangea, ni plus ni moins que si c'eût été une pêche. Crossi, le fils de la fruitière, en remplit sa gibecière, et le petit maçon éclata de rire quand mon père l'invita à venir demain à la maison. Il avait alors la bouche pleine de neige, et n'osant ni la cracher ni l'avaler, il restait là, à nous regarder sans pouvoir nous répondre. Les maîtresses, elles aussi, riaient en sortant de leur école, jusqu'à mon institutrice de première, la pauvrette, qui courait à travers la neige et toussait, s'abritant le visage de son voile vert. Une centaine d'enfants de la section voisine vinrent à passer, en criant et en galopant sur le tapis immaculé. Les maîtres, les portiers et les gardes criaient « Rentrez chez vous ! Rentrez chez vous !» tout en se blanchissant de neige les moustaches et la barbe, riant, eux aussi, de cette échappée d'écoliers qui fêtait l'hiver. « Vous fêtez l'hiver ?» me dit papa. « Mais il y a des enfants qui n'ont ni vêtements, ni souliers, ni feu. Il y en a des milliers qui descendent des villages par un long chemin, portant dans leurs mains, meurtries d'engelures, le morceau de bois qui doit réchauffer l'école. Il y a des centaines d'écoles, presque ensevelies sous la neige, nues et obscures comme des cavernes, où les enfants sont suffoqués par la fumée et grelottent de froid. Ils regardent avec terreur cela, les flocons blancs qui tombent sans fin, qui s'amassent sans trêve sur leurs cabanes lointaines en les menaçant des avalanches. Fêtez l'hiver, enfants, c'est bien, mais pensez aux milliers d'enfants auxquels l'hiver apporte la misère et la mort. Le petit maçon, dimanche 11. Le petit maçon est venu aujourd'hui vêtu d'une veste taillée dans un vieux vêtement de son père et gardant encore des traces de chaux et de plâtre. Mon père, plus que moi, désirait qu'il vînt et sa visite nous fit grand plaisir. À peine entré, il leva sa casquette toute trempée de neige et se la mit en poche. Puis il s'avança avec cette allure lente d'ouvrier fatigué, tournant de-ci et de-là son visage rond comme une pomme, avec son nez épaté. Quand il fut dans la salle à manger, il jeta un coup d'œil sur les meubles et, fixant ses yeux sur un tableau qui représente Rigoletto, un bouffon bossu, il lui fit le museau de lièvre. C'est impossible de s'empêcher de rire en le voyant faire le museau de lièvre. Nous nous mîmes à jouer au jeu de construction. Ce cher petit maçon possède une habileté extraordinaire pour faire des tours et des ponts qui ont l'air de tenir par miracle. Il construit cela avec le sérieux et la patience d'un petit homme. Entre une tour et une autre, il me parla de sa famille. Ils habitent une mansarde. Son père va au cours du soir pour apprendre à lire. Sa mère est de Biella. Ses parents doivent l'aimer, cela se voit, car ses pauvres habits le garantissent bien du froid. On a pris soin de les doubler et sa cravate est nouée proprement de la main de sa mère. Son père, me dit-il, est très grand, presque un géant. Il a peine à passer sous les portes. Mais il est bon et appelle toujours son fils Museau de Lièvre. Celui-ci, contrairement à son père, est de petite taille. À 4 heures, on nous fit goûter, assis sur le sofa, et quand nous nous levâmes, je ne sais pourquoi papa ne voulut pas que j'essuyasse le dossier que la veste du petit maçon avait marqué de blanc. Il me retint la main et l'essuya plus tard lui-même à la dérobée. En jouant, le maçon perdit un bouton de sa veste et maman se mit à le lui rattacher. Il devint tout rouge et resta interdit en voyant coudre maman. Il n'osait respirer tant il était confus de la peine qu'elle prenait pour lui. Je lui donnais des albums de caricatures à regarder et, sans s'en douter, il imitait les grimaces des images avec une telle perfection que papa même se mit à en rire. Il était si content de sa journée, le petit maçon, qu'en partant, il oublia de remettre sa casquette sur sa tête. Arrivé sur le palier, et pour me montrer sans doute sa gratitude, il me fit encore une fois le museau de lièvre. On l'appelle Antoine Rabouco, il a 8 ans et 8 mois. Sais-tu, mon enfant, pourquoi je n'ai pas voulu que tu essuyasses le sofa tandis que ton camarade était là ? Dit papa. Parce que c'était presque lui faire un reproche de l'avoir sali. Et cela n'eût pas été bien, car il ne l'avait pas fait exprès. Et puis, il l'avait sali avec les vêtements que son père a blanchis en travaillant. Les marques du travail sont toujours respectables. C'est de la poussière, de la chaux, du vernis, tout ce que tu voudras, mais non de la saleté. Le travail ne salit pas. Ne dis jamais d'un ouvrier qui revient du travail, il est sale. Tu dois dire, il a sur ses habits les traces de son travail. Souviens-toi de cela et aime bien le petit maçon, d'abord parce qu'il est ton camarade, ensuite parce que c'est le fils d'un travailleur. Une boule de neige. Vendredi 16. Il neige toujours, toujours. Il est arrivé un incident regrettable ce matin à la sortie de l'école à cause de la neige. Une foule de garçons, à peine débouchés sur le corso, se mirent à lancer des boules faites de cette neige mouillée qui les rend dures et lourdes comme des pierres. Il y avait beaucoup de monde sur les trottoirs. Un monsieur cria « Finissez donc, gamin !» Juste à ce moment, on entendit un cri aigu de l'autre côté de la rue et on vit un vieillard, le chapeau enlevé, qui chancelait, se couvrant le visage des deux mains, tandis qu'auprès de lui, un enfant appelait « Au secours ! Au secours !» Aussitôt, on accourut de tous côtés. Le pauvre homme avait reçu une boule sur l'œil. Tous les écoliers de la bande s'enfuirent. Moi, j'étais devant la boutique d'un libraire où mon père était entré, et je vis arriver en courant quelques-uns de mes camarades qui se mêlèrent à mes voisins et feignirent de regarder les victimes. Il y avait Garonne avec son morceau de pain dans sa poche, Coretti le petit maçon et Garoffi le faiseur d'affaires. La foule s'était entre-temps groupée autour du vieillard, un garde et des passants couraient çà et là, menaçant et demandant « Qui est-ce ? Qui a fait cela ? Dites, qui est-ce ? »
On regardait les mains des enfants pour voir si elles étaient mouillées de neige. Garoff y était auprès de moi. Je m'aperçus qu'il tremblait et était blanc comme un linge.
« Qui est-ce ? Qui a fait le coup ? » continuait-on à crier.
J'entendis Garonne qui disait à Garoffi « Allons, va te dénoncer. Ce serait une lâcheté de faire arrêter quelqu'un d'autre. »«
Mais je ne l'ai pas fait exprès !» répondit Garoffi, tremblant comme la feuille.
« N'importe, fais ton devoir !» répéta Garonne.
« Je n'ai pas le courage !»«
Sois sans crainte, je t'accompagnerai !» Le garde et les autres personnes criaient toujours plus fort.
« Qui est-ce ? Qui est-ce ? Les brigands lui ont fait entrer le verre de son lorgnon dans l'œil, ils l'ont éborgné. »
Je crus que Garoff y allait tomber par terre.
« Viens, lui dit résolument Garonne, je te défendrai. »
Et le prenant par le bras, il le poussa en avant en le soutenant comme un malade. Dès qu'on vit Garoff, on comprit que c'était lui et quelques personnes s'avancèrent le poing levé. Mais Garonne se mit debout devant son camarade en criant
« Vous mettrez-vous 10 hommes contre un enfant ?»
Les poings s'abaissèrent et un garde vient prendre Garoffi et le conduisit à travers la foule jusqu'à une boutique de pâtissier où on avait conduit le blessé. En le voyant, je reconnus de suite le vieil employé qui demeure dans notre maison au 4e. Son petit-neveu l'accompagnait. Il était étendu sur une chaise, son mouchoir sur les yeux.
« Je ne l'ai pas fait exprès !»
disait en sanglotant Garoffi, à demi-mort de peur.
« Je ne l'ai pas fait exprès !»
2 ou 3 personnes le poussèrent violemment dans la boutique en criant
« Demande pardon à genoux !»
Mais aussitôt, 2 bras vigoureux mirent Garoffi sur pied et une voix résolue dit
« Non, messieurs !»
C'était notre directeur qui avait tout vu et tout entendu. Garoff y éclata en sanglots en embrassant les mains du vieillard. Celui-ci chercha en tâtonnant la tête de l'enfant repenti et lui caressa les cheveux. Tout le monde dit alors à Garoff « Allez, mon enfant, retournez chez vous !» Mon père me tira de la foule et me dit chemin faisant « Henri, dans un cas semblable, aurais-tu le courage de faire ton devoir ?» d'aller confesser ta faute ? Je lui répondis que oui.
« Donne-moi ta parole de garçon de cœur et d'honneur que tu le ferais, » me dit-il.
« Je t'en donne ma parole, mon cher papa. » Les institutrices, samedi 17. Garoffi était tout craintif aujourd'hui, s'attendant à une réprimande du professeur. Mais M. Perbonne n'est pas venu et le suppléant manquant en ce moment, c'est Mme Chrome, la plus âgée des institutrices, qui est venue faire la classe. Elle était triste parce qu'elle a un fils malade. À peine entra-t-elle dans la classe que les élèves se mirent à faire du bruit. De sa voix lente et tranquille, elle nous dit alors « Respectez mes cheveux blancs, je suis non seulement une institutrice mais une mère ». Personne n'osa plus parler, même l'effronté Franti. Il se contenta de se moquer d'elle en cachette. Dans la classe de Mme Chromi, on envoya Mlle Delcati, l'institutrice de mon frère, et à la place de cette dernière, on envoya l'institutrice qu'on appelle ici la petite religieuse. Toujours vêtue de couleur sombre, avec un tablier noir, son visage est blanc et délicat, ses cheveux lisses, ses yeux clairs et sa voix douce semblent faites pour murmurer des prières. Cependant, avec cette voix douce, elle fait tenir tranquille tout son petit monde, les plus polissons n'osent point broncher devant elle. Sa classe ressemble à une église, c'est pourquoi on l'appelle la petite religieuse. Il y a une autre institutrice qui me plaît beaucoup, c'est celle de la classe numéro 3 de la première élémentaire, une jeune femme au visage rosé qui a 2 petites fossettes au milieu des joues et porte un chapeau à plumes rouges. Elle est toujours de bonne humeur, tient sa classe gaiement, sourit toujours. Quand parfois elle crie, sa voix argentine a l'air de chanter. Pour imposer le silence, elle frappe sans cesse son bureau de sa règle où elle bat des mains. Quand les enfants sortent, elle court après eux pour les remettre en file, arrange le col de celui-ci, boutonne le par-dessus de celui-là, suit les écoliers dans la rue pour qu'ils ne se querellent pas, supplie les parents de ne pas les punir à la maison, porte des pastilles à ceux qui toussent, prête son manchon à ceux qui ont froid. Elle est continuellement assaillie par les petits qui veulent la caresser et l'embrasser, la tirant par le voile ou par son mantelet. Elle se laisse faire, répond par des caresses à leurs caresses, son joli sourire ramenant sur ses joues ses deux petites fossettes. Cette gentille institutrice est en même temps maîtresse de dessin et soutient par son travail sa mère et son frère. Chez le blessé, dimanche 18. Le petit-neveu du vieil employé, de celui qui a été atteint d'une boule de neige, se trouve dans la classe de l'institutrice aimable dont je viens de parler. Nous avons vu ce petit aujourd'hui. Il habite chez son oncle qui l'élève comme son fils. J'avais fini d'écrire le récit mensuel que l'on nous lira la semaine prochaine, intitulé « Le petit écrivain florentin », lorsque mon père me dit « Montons au quatrième pour prendre des nouvelles du vieux monsieur ». Nous entrâmes dans la chambre presque obscure où le vieillard était au lit, assis sur son séant, appuyé sur des oreillers. Sa femme était au chevet du lit et dans un coin de la pièce, son petit-neveu jouait. Le vieillard avait l'œil bandé. Il fut très content de voir mon père, nous fit asseoir et nous annonça qu'il allait mieux. Son œil n'était pas perdu, dans quelques jours il serait guéri. « Ça a été un malheureux événement, » a-t-il ajouté. « Je regrette l'épouvante qu'a dû éprouver ce pauvre enfant. » Il nous parla ensuite du docteur qui venait le soigner. « Ah, le voilà sans doute, » dit-il, entendant sonner à la porte. La porte s'ouvrit. Et qui vis-je ? Garot fit envelopper de son long manteau, droit sur le seuil, la tête basse, n'osant pas entrer. « Qui est-ce ? » demanda le vieillard. « C'est l'enfant qui a lancé la boule de neige, » murmura mon père. « Viens, mon pauvre garçon, » dit le vieillard en tendant la main à Garoffi. « Tu es venu demander des nouvelles du blessé, n'est-ce pas ? Il va mieux, sois tranquille, je suis presque guéri. » Garoffi, confus, s'avança près du lit, s'efforçant de ne pas pleurer. Le vieillard le caressait, mais lui ne pouvait prononcer une parole tant il était ému. « Merci d'être venu, » continua le blessé. « Va dire à ton père et à ta mère que tout va bien et qu'il n'est plus à s'inquiéter. » Garoffi ne bougeait point, comme s'il avait quelque chose et qui lui pesait sur le cœur et qu'il n'osait dire. « Que veux-tu ? Qu'as-tu à me dire ?» demanda le vieillard. « Moi, rien. »« Eh bien, au revoir, mon garçon. Tu peux t'en aller, l'esprit en repos. » Garoffi se dirigea vers la porte. Mais arrivé là, il s'arrêta et, se tournant vers le petit-neveu qui le suivait en le regardant curieusement, il tira tout à coup de dessous son manteau un objet qu'il mit dans la main de l'enfant en lui disant « C'est pour toi !» Puis il disparut comme l'éclair. L'enfant apporta l'objet à son oncle qui ouvrit l'enveloppe. Je ne pus retenir un cri de surprise. C'était le fameux album, la collection de timbres-poste que le pauvre Garoff y avait apporté, la collection dont il parlait sans cesse, sur laquelle il avait fondé tant d'espérances et qui lui avait coûté tant de peine. C'était son trésor, le pauvre garçon. C'était la moitié de son sang qu'il donnait là, en échange de son pardon. Le petit écrivain florentin. Récit mensuel. Il faisait partie de la quatrième élémentaire. C'était un gracieux florentin de 12 ans, aux cheveux noirs, au teint blanc, fils aîné d'un employé du chemin de fer qui, avec une nombreuse famille, n'ayant que de maigres salaires, vivait très étroitement. Son père le chérissait et se montrait envers lui bon et indulgent. Indulgent en tout, excepté en ce qui touchait à l'étude. Là-dessus, il était exigeant et sévère parce que ce fils aîné, pour aider la famille, devait se mettre en état d'obtenir le plus tôt possible un emploi. Et pour le mériter vite, il fallait travailler beaucoup en peu de temps. Bien que l'enfant s'appliquât, son père le poussait toujours à l'étude. Le père était âgé, mais un travail excessif le faisait paraître encore plus vieux qu'il ne l'était en réalité. Néanmoins, pour pourvoir aux besoins de sa famille, outre le labeur absorbant que lui imposait son emploi, il prenait ça et là des copies à faire et passait une bonne partie de la nuit à l'ouvrage. En dernier lieu, il avait accepté d'un éditeur qui publiait des journaux et des livraisons la tâche d'écrire sur les bandes le nom et l'adresse des abonnés. Il gagnait 3 francs pour 500 adresses écrites d'une main large et régulière. Mais ce travail le fatiguait et il se plaignait souvent le soir à dîner. « Mes yeux s'en vont, disait-il, ce travail nocturne m'achève. » L'enfant lui dit un jour, « Papa, laisse-moi te remplacer, tu sais que j'écris tout à fait comme toi. » « Non, mon enfant, tu dois étudier, lui répondit le père. « Ton école est une chose beaucoup plus importante que mes bandes. J'aurais remords de te voler une heure. Je te remercie, mais je ne veux point. » L'enfant savait que son père était inflexible à ce sujet, il n'insista pas. Mais voici ce qu'il fit. Il savait qu'à minuit, son père finissait d'écrire et sortait de son cabinet pour aller dans la chambre à coucher. Bien souvent, il avait entendu, après les 12 coups sonnés à la pendule, la chaise de son père remise en place, puis son pas lent se dirigeant vers la chambre. Une nuit, il attendit qu'il fût couché, puis se leva, s'habilla en silence, alla à tâtons dans le cabinet, ralluma la lampe, s'assit devant le bureau où se trouvait un monceau de bandes blanches et la liste des adresses, et il se mit à écrire, imitant exactement l'écriture de son père. Il écrivait avec entrain, content, mais non sans une certaine inquiétude. Et les bandes s'amoncelaient. De temps en temps, il abandonnait la plume pour se frotter les mains, puis recommençait avec plus d'entrain, tendant l'oreille et souriant. Il écrivit 160 adresses. 1 franc de gagné, alors. Il s'arrêta, remit la plume où il l'avait prise, éteignit la lampe et regagna son lit sur la pointe du pied. Ce jour-là, à midi, le père s'assit à table de meilleure humeur. Il ne s'était aperçu de rien. Il faisait ce travail mécaniquement, en pensant à autre chose, et il ne comptait les bandes que le lendemain matin. Il s'assit donc gaiement et posant sa main sur l'épaule de son fils. « Eh, Jules, dit-il, ton père travaille encore mieux que tu ne croyais. En 2 heures, j'ai fait hier un bon tiers d'ouvrage de plus que les autres soirs. La main est encore leste et les yeux font encore leur devoir. » Jules, tout content, se disait en lui-même. « Pauvre papa, outre le gain, je lui procure encore la satisfaction de se croire rajeuni. Courage donc !» Encouragé par son succès, la nuit suivante, à minuit sonnant, Jules se leva encore pour travailler. Il fit cela pendant plusieurs nuits. Son père ne s'en doutait pas. Seulement, une fois à dîner, il s'écria tout à coup « C'est curieux ce qu'on use de pétrole ici depuis quelque temps !» Jules tressaillit, mais cela n'alla pas plus loin et l'enfant continua son travail nocturne. Cependant, à veiller ainsi toutes les nuits, il ne se reposait pas assez. Le matin, il se levait fatigué et le soir, en faisant ses devoirs, ses yeux se fermaient malgré lui. Un soir, pour la première fois de sa vie, il s'endormit sur son cahier. « Courage, courage !» lui cria son père en battant des mains. « Au travail !» Jules se secoua et se remit à la besogne. Mais le jour suivant, ce fut la même chose, et le temps ne fit qu'empirer cet état de lassitude. Il sommeillait sur ses livres, se levait plus tard que de coutume, étudiait ses leçons à la hâte, et paraissait dégoûté de l'étude. Son père commença à lui faire quelques observations, puis en vint aux reproches, les premiers qu'il eut adressés à son fils. « Jules, lui dit-il un matin, tu changes énormément. Tu n'es plus ce que tu étais autrefois. Ce n'est pas bien cela. Souviens-toi que toutes les espérances de la famille reposent sur ton avenir. Je suis mécontent, je te l'avoue. » À ces mots, l'enfant se troubla et se dit en lui-même. « Oui, c'est vrai, cela ne peut continuer ainsi, il faut que cette supercherie finisse. » Mais le soir de ce même jour, le père avoua avec beaucoup de plaisir qu'il avait gagné à faire ses bandes 32 francs de plus que le mois précédent. Et, disant cela, il sortit de sa poche un cornet de bonbons qu'il avait acheté pour fêter avec ses enfants ce supplément de salaire. Les enfants accueillirent les bonbons par des cris joyeux et des battements de mains. Jules reprit courage à cette vue et se dit « Non, pauvre papa, non,
je ne cesserai pas de te tromper. Je ferai de plus grands efforts, j'étudierai beaucoup dans la journée et je continuerai à travailler la nuit pour toi et pour les petits. » Le père ajouta, « 32 francs de plus, je suis très content. Malheureusement, celui-là, et il indiqua Jules du doigt, me donne beaucoup de tourments. » Jules subit les reproches, refoula deux grosses larmes prêtes à tomber de ses yeux. Pourtant, son cœur était pénétré d'une bien douce joie. Il continua à travailler de toutes ses forces. Mais la fatigue s'ajoutant à la fatigue, il lui devint de plus en plus difficile de résister. Cela dura 2 mois. Le père continuait de reprocher à son fils une mollesse inqualifiable et le regardait avec des yeux de plus en plus courroucés. Un jour, il alla s'informer auprès du professeur de ce que faisait son fils. « Oui, dit le professeur, il arrive parce qu'il est intelligent, mais il n'a plus la bonne volonté d'autrefois. Il est somnolent, distrait et bâille continuellement. Ses compositions sont courtes, jetées à la hâte sur le papier, l'écriture est négligée. Oh, il pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. » Ce soir-là, le père prit son fils à part et lui dit des choses plus dures que l'enfant n'en avait jamais entendues. « Jules, tu vois que je travaille, que j'use ma vie pour ma famille. Tu ne me secondes pas. Tu n'as pas d'affection ni pour moi, ni pour tes frères, ni pour ta mère. »« Ah, ne dites pas cela, papa !» interrompit l'enfant en éclatant en sanglots. Il allait ouvrir la bouche pour confesser ce qu'il avait fait quand son père l'interrompit en disant « Tu connais les conditions dans lesquelles se trouve la famille, tu sais qu'il faut de la bonne volonté et des sacrifices de la part de tous. Moi-même, vois-tu, je devrais doubler mon travail. Je comptais ce mois-ci sur une gratification de 100 francs au chemin de fer et j'ai su ce matin qu'on ne nous donnera rien. » À cette nouvelle, Jules se tut et ne laissa pas échapper la confession qu'il avait l'intention de faire. « Non, papa, non, je ne dirai rien, » pensa-t-il. « Je garderai mon secret, car je veux travailler pour toi. Cela compensera la douleur que je te cause autrement. Quant à l'école, je travaillerai toujours de façon à passer mes examens. Ce qui importe, c'est de t'aider à gagner ta vie, t'alléger la fatigue qui te tue. » Et il alla de l'avant. 2 mois encore de travail de nuit et de journées languissantes, d'efforts désespérés de la part du fils, de reproches amers de la part du père. Mais le pire était que peu à peu, celui-ci se refroidissait à l'égard de son enfant, ne lui parlait que rarement, comme s'il était un enfant endurci, duquel il n'y a plus rien à attendre, et fuyait même son regard. Jules s'en apercevait, il en souffrait cruellement. Lorsque son père lui tournait le dos, il lui envoyait furtivement un baiser, et son visage exprimait un sentiment de tendresse, de pitié et de tristesse. Entre le chagrin et la fatigue, Jules maigrissait et perdait ses belles couleurs. Il était obligé de négliger de plus en plus ses études. Il comprenait bien que cela devait finir et chaque soir il se disait « Cette nuit, je ne me lèverai pas. » Mais à peine minuit sonné, au moment où il aurait dû se fortifier dans sa résolution, un remords le prenait. Il lui semblait que rester au lit, c'était manquer à un devoir, c'était voler 1 franc à son père et à sa famille. Et il se levait, espérant qu'une nuit son père se réveillerait et le surprendrait, ou bien que, par chance, il s'apercevrait de la tromperie en comptant 2 fois les bandes, et alors tout finirait naturellement, sans qu'il y eût de sa part un acte qu'il ne se sentait pas le courage d'accomplir. Et il continuait. Un soir, à dîner, le père prononça une parole qui fut décisive pour lui. La mère regardait Jules, et le voyant plus faible et plus pâle que de coutume, elle dit « « Jules, tu es malade ?» Puis se tournant anxieusement vers son mari. « Jules est malade. Regarde comme il est pâle. Mon chéri, comment te sens-tu ? » Le père jeta un coup d'œil sur lui à la dérobée et répondit. « La mauvaise conscience engendre la mauvaise santé. Jules n'était pas ainsi lorsqu'il était un écolier studieux et un garçon de cœur. « Il est malade !» continua la mère. « Cela ne me touche plus !» répondit le père. Cette réponse fut un coup de poignard au cœur du pauvre garçon. Ah, cela ne le touchait plus. Son père qui tremblait autrefois rien qu'en l'entendant tousser. Il ne l'aimait donc plus.
Il n'y avait plus de doute, Jules était mort dans le cœur de son père.
« Ah non, mon père !» se dit l'enfant, le cœur serré par l'angoisse. « Maintenant, je cesserai vraiment d'écrire. Je ne peux pas vivre sans ton affection, je veux la reconquérir tout entière, je te dirai tout, je ne te tromperai plus, j'étudierai comme avant. Arrive que pourra, pourvu que tu m'aimes encore, mon pauvre papa chéri. Oh, cette fois, je serai ferme dans ma résolution. »
Malgré tout, il se leva encore cette nuit-là, plutôt par habitude. Quand il fut levé, il voulut revoir pendant quelques minutes, dans le silence de la nuit et pour la dernière fois, ce petit cabinet de travail où il avait tant travaillé secrètement, le cœur plein de satisfaction et de tendresse.
Lorsqu'il se retrouva en face du bureau, la lampe allumée, qu'il vit les bandes blanches sur lesquelles il n'écrirait plus jamais, ses noms de villes et de personnes qu'il connaissait par cœur, il fut pris d'une grande tristesse et, sans s'en douter, il saisit la plume pour reprendre l'ouvrage commencé. Mais, en étendant la main, il heurta un livre qui tomba à terre. Il eut un soubresaut de terreur. Si son père s'éveillait! Certes, il ne l'aurait pas surpris commettant une mauvaise action, lui-même était décidé à tout lui dire. Et cependant, entendre son pas dans l'obscurité, être surpris à cette heure avancée de la nuit au milieu de ce silence, sa mère qui se réveillerait sans doute effrayée, et surtout en pensant que, pour la première fois, son père pourrait être humilié devant lui, il se sentait tout tremblant. Jules tendit l'oreille, le souffle suspendu aux lèvres. Il n'entendit pas le moindre bruit. Rien, rien. Toute la maison dormait. Son père n'avait rien entendu. Il se tranquillisa, se remit à écrire et les bandes s'entassèrent sur les bandes. Tout entier à son travail, il ne songeait ni au pas cadencé des gardes qui passaient dans la rue déserte, ni au bruit qui cessa des voitures et des charrettes qui marchaient lentement en faisant trembler les vitres. Il se fit enfin un profond silence que rompait de temps à autre l'aboiement lointain d'un chien. Et Jules écrivait, écrivait toujours. Son père, cependant, était derrière lui. Il s'était levé en entendant le livre tomber et avait attendu un moment propice pour aller jusqu'au cabinet de travail. Le bruit des charrettes avait couvert le bruit léger de ses pas. Oui, il était là, sa tête blanche au-dessus de la tête brune de son fils. Il voyait courir la plume sur les bandes et avait tout compris. Certains détails échappés à sa mémoire lui revenaient soudain avec un regret profond d'avoir douté de son fils. Une tendresse extrême débordait de son cœur et le tenait cloué là, ému et palpitant, derrière son enfant. Tout à coup, Jules jeta un cri. Deux mains serraient convulsivement sa tête.
« Ah, papa, papa, pardonne-moi, pardonne-moi » s'écria-t-il, reconnaissant son père à ses sanglots.
« Pardonne-moi, toi, mon Jules chéri !» répondit le père en couvrant de baisers et de larmes le front de l'enfant. « J'ai tout compris, je sais tout, et c'est moi qui te demande pardon, mon fils bien-aimé. Viens, viens avec moi !»
Il le souleva de sa chaise, ou plutôt le porta sur le lit de sa mère éveillée, le jeta dans ses bras et lui dit « Embrasse ce fils dévoué qui, depuis 4 mois, ne dort plus et travaille à ma place. Je l'accusais tandis qu'il gagnait du pain pour sa famille. » Sa mère le serra contre son cœur sans pouvoir tout d'abord prononcer une parole. Puis, quand elle l'eut bien embrassé,
« Au lit, tout de suite, enfant, va dormir. Va te reposer. Porte-le dans son lit. »
Le père prit Jules dans ses bras et le porta dans sa chambre, le mit au lit tout en le caressant avec amour, borda les couvertures, arrangea les oreillers.
« Merci, papa, merci !» disait l'enfant. « Mais va te coucher aussi !» « Je suis content. Bonne nuit, papa !»
Le père voulut absolument le voir endormi. Il s'assit au chevet du lit de son fils, lui prit la main en disant
« Dors, dors, mon ange !»
Jules exténué s'endormit et dormit longtemps, jouissant enfin depuis plusieurs mois d'un sommeil tranquille, illuminé de rêves heureux. Quand il ouvrit les yeux, le soleil resplendissait déjà depuis quelques heures, et il sentit tout près de lui, appuyé au bord du lit, la tête de son père qui avait passé la nuit ainsi. Il s'était endormi, heureux du repos de son fils.
La volonté. Mercredi 28. Je suis sûre que Stardi de ma classe aurait le courage de faire ce que fit le petit Florentin. Ce matin, il y a deux heureuses à l'école. Garof fit fou de joie parce qu'on lui a rendu son album auquel on a ajouté trois timbres de la République du Guatemala. Il est désiré depuis 3 mois. Et Stardi parce qu'il a reçu la seconde médaille. Stardi, le premier de la classe après De Rossi. Tout le monde en a été émerveillé. Qui l'eût cru ? En octobre, quand son père le conduisit à l'école, mal fagoté dans sa vareuse verte, il dit au professeur « Ayez beaucoup de patience parce que mon fils a la compréhension difficile. » Tous les élèves l'appelaient depuis « tête de bois ». Mais lui, Stardi, disait « Ou je crèverai, ou je réussirai. » Et il se mit à travailler d'arrache-pied, la nuit, le jour, chez lui, à l'école, à la promenade, les dents et les poings serrés, patient comme un bœuf, obstiné comme un mulet. Et ainsi, à force de bûcher, de se moquer des moqueurs et de donner des coups de pied aux importuns, il a passé par-dessus tout le monde, se têtu. Il ne savait pas un mot d'arithmétique, remplissait sa composition de sottises, ne pouvant pas se rappeler une date, et maintenant il résout des problèmes, écrit correctement et récite ses leçons comme une fable. On devine sa volonté de faire, rien qu'à son aspect trapu, la tête carrée encaissée dans les épaules, les mains courtes et grosses, la voix rude. Chaque fois qu'il a 10 sous, il s'achète un livre. Il a déjà formé une petite bibliothèque et, dans un moment de bonne humeur, il a laissé échapper qu'il me la ferait voir quand je viendrai chez lui. Il ne parle à personne, ne joue avec personne, il est toujours sur son banc et, le front sur ses poings fermés, il écoute le professeur. Combien il a dû travailler, ce pauvre Stardi. Ce matin, en lui remettant la médaille, le professeur, qui était pourtant de mauvaise humeur, ne put s'empêcher de lui dire « Bravo, Stardi, la patience vient à bout de tout. » Stardi ne paraissait pas du tout fier de son succès. Il ne sourit même pas et, de retour à son banc, ayant sa médaille, il se planta de nouveau ses 2 points sur les tempes et resta plus attentif que jamais. Le plus beau, ce fut à la sortie, où son père était venu l'attendre. Un homme trapu et épais comme lui, avec une grosse face et une grosse voix. Comme il ne s'attendait guère à ce que son fils remportât la médaille, il ne voulait pas y croire. Il fallut que le professeur le lui assurât personnellement, alors il se mit à rire aux éclats, donna une tape sur la nuque de son fils et s'écria très haut. « Mais bien, mais très bien, ma chère caboche !» Il regardait son fils tout étonné et souriait. Ceux qui étaient là souriaient de même. Stardi seul était calme et marmottait déjà entre ses dents la leçon de demain matin. Gratitude. Samedi 31. À Henri. Ton camarade Stardi ne se plaint jamais de son maître, j'en suis certain. Le professeur était de mauvaise humeur, il était impatient, as-tu dit sur un ton de rancune. Pense un peu combien de fois tu t'impatientes, toi. Et contre qui? Contre ton père et ta mère, envers qui ces vivacités sont très coupables. Ton maître a bien sujet d'être quelquefois impatienté. Pense depuis combien d'années il se fatigue pour les enfants et que, si l'on a rencontré quelques-uns affectueux et gentils, la plupart n'ont été que des ingrats qui ont abusé de sa bonté et méconnu sa peine. Malheureusement, à vous tous, vous lui donnez plus de déboires que de satisfaction. Le plus saint homme de la terre, mis à sa place, se laisserait emporter par la colère. Si tu savais combien de fois le professeur vous fait la classe quand il est malade, parce que son mal n'est pas tout à fait assez grand pour qu'il se fasse excuser, il est impatient parce qu'il souffre, et c'est une grande douleur pour lui de voir que vous vous en apercevez et que vous en abusez. Respecte et aime ton professeur, mon fils. Aime-le parce que ton père l'aime et le respecte. Aime-le parce qu'il consacre sa vie au bonheur de tant d'enfants qui l'oublieront. Aime-le parce qu'il ouvre et éclaire ton intelligence et élève ton âme. Plus tard, quand tu seras un homme et que nous ne serons plus de ce monde, ni lui ni moi, son souvenir se présentera à toi souvent auprès du mien, et alors, vois-tu, certaines expressions de douleur et de fatigue de son bon visage te feront de la peine, même après 30 ans. Et tu auras honte, tu regretteras de ne pas l'avoir aimé,
de t'être mal comporté envers lui. Aime ton professeur parce qu'il appartient à cette grande famille enseignante éparse dans le monde entier qui élève des milliers d'enfants grandissant avec toi. Je ne serai pas fière de l'affection que tu me portes si tu ne l'éprouves pas aussi pour tous ceux qui te font du bien et, entre eux, ton maître est le premier après tes parents. Aime-le comme tu aimerais un frère, aime-le quand il te caresse et quand il te gronde, quand il est juste et même quand il te semble ne l'être pas. Aime-le quand il est gai, mais aime-le plus encore quand il est triste et prononce toujours avec respect ce titre « maître ». Après celui de père, c'est le plus noble, le plus doux qu'un homme puisse donner à un autre homme. Ton père.